en bas à gauche. Enjeux et mobilisation.
Plein de sujets, encore une fois, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. En gros, je vais vous parler un peu d'élections en Tunisie, bien au Canada, un peu du cas Paula Ortiz qui a été expulsé au Mexique. Je vais vous parler d'une nouvelle lubie du gouvernement conservateur qui est d'enquêter sur des citoyens qui sont déjà naturalisés, mais qui vise à retirer la naturalisation et la citoyenneté à certains citoyens. Je vais vous parler d'Ivan Sancho, dont le procès en Espagne est terminé depuis la semaine passée, je crois. Et je vais terminer avec quelques petites annonces, deux, trois choses qui s'en viennent, qui, je l'espère, ne coupent pas votre calendrier, votre agenda militant. Alors, premièrement, bon, il y a eu des élections, les premières élections en Tunisie depuis les toutes premières, je crois. Donc, c'était ce dimanche. On n'a pas encore de résultats officiels, mais bon, comme la plupart des pays qui ont une importante diaspora un peu à travers le monde, il y a des bureaux de vote qui sont ouverts dans plusieurs pays, dont le Canada généralement. C'est une pratique que la France fait, l'Italie fait ça aussi. L'Algérie, récemment, il y avait des bureaux de scrutin à Montréal. Ça a été un peu médiatisé, mais le gouvernement conservateur, comme vous le savez peut-être, a refusé la demande du Conseil de transition, enfin, des autorités tunisiennes pour ouvrir des bureaux de scrutin un peu partout, là où il y a un bassin de population suffisant, comme que ce soit à Québec, Ottawa, Montréal. C'est une nouvelle mesure du gouvernement conservateur qu'on s'explique pas trop, qui n'a pas été vraiment expliquée par le ministère des Affaires étrangères canadien, qui peut-être vise à envoyer un message comme quoi les doubles citoyennetés, c'est pas quelque chose qui est souhaitable selon ce gouvernement-là. Bref, le Canada a refusé à l'instance tunisienne d'ouvrir des bulletins de vote dans des salles communautaires ou dans des sous-sols d'église, ce qui a fait en sorte que le seul bureau de scrutin qui était ouvert au Canada dimanche dernier était au bureau du consulat tunisien à Montréal. Donc, pour tous les Tunisiens qui habitaient, par exemple, ailleurs au Québec, ils devaient se rendre à Montréal pour pouvoir exercer leur droit de vote, ce qui est un peu ironique, étant donné que c'est des premières élections, que c'était très attendu et que le gouvernement canadien, normalement, devrait soutenir les efforts démocratiques des pays qui veulent se lancer dans l'aventure démocratique. Mais enfin, ça n'a pas été le cas. Même le Canada était le seul pays au monde à refuser cette demande-là à la Tunisie. Même l'Arabie saoudite, où Ben Ali se trouve actuellement, a accordé aux autorités tunisiennes le droit d'ouvrir des bureaux de scrutin un peu partout, que ce soit dans des endroits privés, des salles communautaires, etc. Donc voilà, on remercie le gouvernement conservateur pour son effort dans la construction démocratique de la Tunisie. Et ben, on se désole aussi pour tous les Tunisiens qui habitent Québec, par exemple, qui n'ont pas pu aller voter. Autre sujet, c'est rare que je vais faire ça, mais je vais vous recommander la lecture d'un article de La Presse, qui ou de Cyberpresse, si vous préférez.
Tu ne veux pas y penser avant un peu plus?
Ben, c'est parce qu'il se trouve que des fois, j'imagine La Presse agit un peu comme une patrouille de flics. Il y a le bon et le méchant. Donc, ils ont certains chroniqueurs qui agissent à titre de bon pour essayer de contrebalancer ou donner une certaine crédibilité, que ce soit Rima El-Khoury, par exemple, ou je pense que c'est un article de Annabelle Nicoud sur Paula Ortiz. Donc, qui vit dans la grande région du district fédéral de Mexico actuellement, mais qui vit en fugitive. C'est le titre de l'article. Donc, si vous faites une petite recherche Google pour l'artiste La Fugitive, vous allez trouver cet article-là, qui est une lecture très intéressante. Ça nous résume un peu comment elle vit, comment elle se cache de son mari, qui est un policier fédéral, dont elle voulait fuir les violences. Ça parle un peu de la situation des femmes en général au Mexique, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, bon, il y a toujours un réseau de solidarité qui existe autour des enfants, des deux enfants de Mme Ortiz. C'est regroupé autour de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, donc ceux qui voudraient apporter leur soutien, c'est deux enfants qui ont besoin de soins actuellement. Et leur mère n'est pas là, il y a une tante qui s'en occupe, si j'ai bien compris. C'est un cas qui est un peu particulier parce que Mme Ortiz avait obtenu le certificat de sélection du Québec, donc délivré par le gouvernement provincial. Et pour des raisons, pour plusieurs raisons, le gouvernement fédéral a refusé la résidence permanente. J'essayais de trouver de l'information un peu sur les implications, c'est-à-dire quand le provincial accorde un certificat de sélection, quel est le pouvoir du fédéral de le refuser? Ben, il semble qu'il soit total, peu importe que le que le certificat a été délivré par Québec ou non.
Mais en fait, c'est juste au Québec que ça peut arriver, cette situation-là, vu que les autres provinces n'ont même pas ce droit de rigueur qui est le certificat de sélection.
Oui, t'as raison, c'est seulement au Québec. Et ça amène même des gens à penser que des fois, ça pourrait être plus simple pour certains immigrants qui veulent s'établir au Québec de faire une demande dans une autre province. Évidemment, ça pourrait apporter toutes sortes de complications. Ce serait probablement difficile à gérer dans la vie de tous les jours parce qu'il faudrait quand même démontrer qu'on habite au Québec. Mais moi, ça me pose quand même la question à savoir est-ce que ce certificat de sélection-là délivré par Québec est vraiment nécessaire ou ça fait juste finalement alourdir les procédures. Donc, la question est lancée. Je vais peut-être me pencher là-dessus dans une autre chronique. On verra bien. Un autre dossier qui m'est apparu, c'est dans une publication qui est publié à Montréal, qui s'appelle atlasmedia.com. C'est aussi je sais pas si c'est un hebdo ou un mensuel, Atlas Media au pluriel, mais il y a une publication papier qui existe aussi. Ça couvre l'actualité du monde arabe en général et des communautés arabes à travers le monde et non seulement dans les pays au Proche-Orient ou dans le Maghreb. Il soulevait un cas, comme je vous disais en introduction, il y aurait à peu près 500 Libanais actuellement, mais incessamment, qui pourraient perdre leur citoyenneté, même s'ils sont déjà citoyens. Ce serait relativement une première parce que le chiffre que j'ai obtenu, c'est que depuis 1977, il y aurait eu 66 cas de dénaturalisation. Donc, c'est un mot que j'invente. Mais le gouvernement conservateur, encore une fois, on leur remercie de nous fournir en actualité. Il serait sur le point de délivrer des avis d'intention de retrait de la souveraineté à 500 Libanais. Le journal couvre surtout les problématiques liées aux communautés arabes. Donc, on pense qu'il y aurait à peu près 2000 personnes qui pourraient recevoir cet avis-là éventuellement. Et il y en aurait des milliers d'autres, mais évidemment, on n'a pas de chiffre officiel, dont les cas seraient sous enquête actuellement par le ministère de l'Immigration.
Ça fait-tu qu'on parle de deux classes de citoyenneté, en fait, dans ce pays-là, maintenant?
Ben, en fait,
ou qu'on peut parler de
ça? Parce que, ben, évidemment, il y a ce qu'on peut penser, puis il y a les raisons officielles qui sont invoquées. Le gouvernement parle de... il y aurait deux cas qui motiveraient ce genre d'enquête-là, deux cas types, des déclarations frauduleuses lors de la demande d'immigration, souvent motivées par des conseillers en immigration qui sont aussi des fraudeurs, il faut le dire. Et l'autre cas de figure, ce serait des gens qui n'habiteraient pas le temps minimum requis au Canada, qui soi-disant profiteraient des services de santé et d'éducation, mais vivraient la majorité du temps soit en Europe, soit au Liban, ou bref, pas au Canada. Il y a même... Ben, tout ça, c'est souvent basé sur des allégations, et les procédures sont très longues actuellement parce qu'il y en a des milliers à l'étude. Et c'est beaucoup alimenté par une ligne téléphonique de dénonciation qui a été mise sur pied aussi par les conservateurs il y a quelques mois. Donc, on peut dénoncer ses voisins, ses amis, maintenant, en toute impunité, dans la confidentialité la plus totale. C'est pas quelque chose qui avait été beaucoup annoncé, je pense, mais il semble que beaucoup des dossiers qui sont actuellement sous enquête proviennent de dénonciation des pairs. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est une question qui n'a pas été beaucoup médiatisée, celle-là. Donc, c'était étudié. Moi, ça me fait un peu peur. Surtout qu'une fois que quelqu'un est citoyen, normalement, ça devrait être blindé. On ne devrait pas pouvoir lui enlever sa citoyenneté.
Mais c'est ce que je pense aussi.
Ben parce qu'on le fait beaucoup pour les résidents ou pour les personnes en attente de statut, mais normalement, pour les citoyens, on les laisse tranquilles. C'est fini, quoi. OK, le temps avance. OK, je continue. Donc, comment ça se passe, ça? Ben, on envoie des avis d'intention par la poste aux personnes. Donc, la plupart n'ont pas été prévenus. Ils reçoivent un avis chez eux comme quoi leur citoyenneté pourrait leur être retirée. Une fois que cet avis-là leur est envoyé, on gèle leur retour d'impôts provinciaux, on leur retire leur carte d'assurance maladie, on peut suspendre leur carte de renouvellement de carte de résidence permanente. Et comme les recours sont tellement longs, bien, ils se retrouvent en situation, finalement, qu'ils sont coincés ici. Ils n'ont plus leurs papiers, c'est tout retiré. En absence de service. Donc, je ne sais pas dans quel genre de situation ça peut mettre les familles, les parents, les citoyens. Enfin, bref, c'est...
Je ne sais pas quelle est la situation au Liban, mais il y a aussi beaucoup de pays où il faut renoncer à sa citoyenneté pour pouvoir devenir citoyen d'un autre pays. Donc, ça amène des situations assez précaires, j'imagine aussi, à la longue, ce genre de politique.
Ben, au Liban, on peut conserver sa citoyenneté et avoir une deuxième citoyenneté, comme c'est le cas en France, par exemple.
Ouais.
Ben, moi, ça ne me pose pas de problème. Je sais pas.
Non, mais j'imagine la situation dans laquelle des gens peuvent se trouver ayant renoncé leur citoyenneté pour avoir la citoyenneté canadienne et ensuite se faire retirer la citoyenneté canadienne par la suite à la dénonciation d'un voisin ou quelque chose de semblable. Ça ressemble à une chasse aux sorcières, tout ça.
Oui, c'est je veux bien.
Exactement les mêmes mécanismes que l'Inquisition, genre.
Ben exactement, mais combien de Français on connaît qui ont la citoyenneté française et la citoyenneté canadienne? Ils se font pas écœurer par les autorités?
Non,
ils peuvent retourner habiter 5 ans en France. Leur citoyenneté, elle aurait été acquise, la citoyenneté canadienne.
Absolument.
Donc, il y a apparence de profilage et de chasse aux sorcières, effectivement, comme tu dis. Et pourquoi les Libanais, alors que, bon, il y a souvent des conflits armés qui peuvent être dangereux, donc ils ont toujours, même s'ils vivent au Liban, ils ont toujours le recours de pouvoir venir se réfugier au Canada sans faire des démarches parce qu'ils sont citoyens, donc ça, je vois pas pourquoi ça leur serait refusé. En tout cas, c'est un gros sujet. J'avais d'autres sujets, donc je vais passer à un autre. Donc, Ivan Sancho, qui a été expulsé du Canada en 2008, je crois, sous prétexte que... ben parce que les autorités espagnoles le réclamaient pour le juger sous des allégations de terrorisme reliées à l'ETA.
Blandine, qui est partie avec une délégation la semaine dernière à Madrid pour le procès de Ivan Apaolaza Sanchos. Blandine, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'objectif de la délégation à Madrid?
Oui, donc le comité Liberté pour Ivan, qui est un des comités qui fait partie de la commission populaire, le bureau de la commission populaire basée à Montréal, donc a organisé cette délégation pour le procès d'un prisonnier politique basque à Madrid. Le lien entre le comité à Montréal et le prisonnier à Madrid, c'est que Ivan vivait au Canada depuis 2001. Donc entre 2001 et 2008, il vivait au Canada, il a vécu à Vancouver et à Montréal. Et en 2007, en fait, alors qu'il faisait tout simplement un tour de vélo à travers le Canada, il a été arrêté par la GRC et a été détenu pendant un peu plus d'un an à Rivière-des-Prairies, donc à côté de Montréal. C'est comme ça que des gens de Montréal se sont intéressés à son cas, puisque c'est un cas qui rappelle beaucoup de cas d'immigration et d'injustice qu'on a vu dans d'autres cas. En gros, il a été arrêté sous des allégations de terrorisme à cause des fameuses listes noires. On rappellera ces listes noires, c'est ces listes que se partagent les États, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, dans laquelle il n'y a besoin d'aucun jugement. Et donc, les allégations contre lui, c'était donc sa présence sur une liste noire, c'est-à-dire donc ce mécanisme dans lequel l'État espagnol peut simplement dire qu'il met la personne sur une liste sans aucune preuve, c'est-à-dire sans autre forme de procès. Et c'est, à toute fin pratique, à peu près impossible de sortir de ces listes-là, puisqu'il faut, en général, l'accord des États pour le faire. Et que les États n'ont rien à prouver. Fait que c'est un petit peu un juge est parti et sentence tout inclus, d'où les hautes critiques contre ces mécanismes de liste noire dont il existe plusieurs sortes. Et également, donc, un mandat d'arrestation de l'Espagne. Finalement, Ivan a été déporté et notamment un des problèmes majeurs dans cette situation-là, c'est qu'il a été déporté et non pas extradé.
Donc, le procès s'est terminé cette semaine. Il y a un excellent résumé qu'on peut lire sur le site de la Commission populaire. Donc, peoplescommission.com. Ben, on apprend un peu comment ça s'est déroulé, quels étaient les arguments de la défense, quels étaient les arguments de la couronne. Il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été notées. Par exemple, on a relevé des empreintes de M. Sancho dans un appartement, paraît-il, où habiterait un terroriste déclaré. Par contre, ça a été des empreintes qui ont été prises sur des objets mobiles qu'on peut déplacer comme des livres, comme des toutes sortes de choses comme ça. Des témoignages centrales de la preuve ont été obtenus sous torture, donc normalement, selon les conventions internationales, n'est pas valide. Il y a eu beaucoup de témoins anonymes aussi, donc ce qui n'est pas nécessairement une procédure tout à fait admissible là, juridiquement, si on veut. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un jugement qui va être rendu dans les semaines à venir. Pour l'instant, il y a une délégation de Canadiens qui font de la pression sur Mme Sauvé, qui travaille en ambassade pour des affaires juridiques. Elle s'est dit sensible et concernée et semble vouloir peut-être aller frapper aux portes du gouvernement espagnol pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire ou des recours ou que les irrégularités soient un peu réparé ou pas retenu comme preuve. Il semble-t-il qu'un certain Stéphane Dion se serait montré sensible à ça, mais bon, en tout cas. Donc, en tout cas, on essaie quand même de responsabiliser le Canada à ça, parce que c'est lui quand même qui a déporté M. Sancho vers l'Espagne pour qu'il soit jugé dans des conditions qui sont pas nécessairement correctes. Puis le Canada, en faisant ça, ben il respecte pas non plus certaines conventions. Si vous voulez peut-être avoir des nouvelles, ben c'est ça, sur le site de la Commission populaire. Il y a aussi une adresse courriel qui est madrid@commercialinternational.gc.ca, qui est pour exprimer aux autorités consulaires canadiennes en place en Espagne que vous n'êtes pas d'accord avec cette situation-là. Très rapidement, juste une petite annonce. Le Comité des droits de la personne du Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal organise une soirée qui a l'air assez intéressante. Je ne sais pas si c'est dans votre agenda. Donc, ça se trouve à être le jeudi 3 novembre, Galerie Armat, 3255 Saint-Jacques. C'est sur... en gros, ça parle du traitement des demandes de réfugiés au Canada avec des représentants du Comité d'aide aux réfugiés, du Conseil canadien pour les réfugiés et des réfugiés eux-mêmes qui vont partager leur expérience. Ça conclut ma chronique.
Merci Simon.
Ben, merci à vous.